Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Nous sommes le mardi 24 janvier, enfin à cette heure-ci nous sommes plutôt le mercredi 25 janvier puisque nous enregistrons cet épisode avec Anthony Lebos et Léopold Audebert dans la foulée de notre débat avec les représentants des trois principales forces politiques du pays. C'était un débat consacré évidemment à la réforme de la retraite. Il y avait Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, Mathilde Panot, la chef du groupe des Insoumis à l'Assemblée nationale, et Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Débat événement sur BFM TV. Nous étions là en coulisses et on va vous raconter d'ailleurs ce qui s'est passé en coulisses. C'était très intéressant pendant l'émission, il y avait aussi des choses intéressantes en coulisses. Donc voici cet épisode enregistré au milieu de la nuit. Salut à tous les deux.
Bonsoir.
Salut Philippe.
Il est 23h50, nous sommes au bureau au service politique. Je baisse un peu la lumière parce que...
Ambiance stabilisée.
Ambiance stabilisée. Ouais, non, mais c'est surtout que j'ai mal aux yeux avec tous ces néons là. Je fais ça tous les matins quand j'arrive à...
Puis ça fera des économies d'énergie aussi.
À 7h15 du matin, j'éteins, donc voilà, et elle se rallume automatiquement.
Donc, c'est bien, voilà. On a vraiment les coulisses, mais vraiment du service politique.
Exactement, voilà. Là, c'est mieux, regardez, il y a moins de néons. Bon, on sort donc de ce... Enfin, on sort. Nous n'étions pas sur le plateau, mais nous étions dans les coulisses. De ce débat événement sur les retraites, Olivier Véran, Jordan Bardella, Mathilde Panot, qui étaient réunis sur ce plateau. Qu'est-ce que vous en avez pensé? De manière générale, on va raconter certains aspects qui sont déroulés en coulisses juste après, mais qu'est-ce que vous avez pensé de manière générale du débat? Est-ce que c'était équilibré? Est-ce qu'il y a un gagnant, un perdant? Enfin, voilà.
Moi, je ne saurais pas vous dire s'il y a un gagnant. Franchement, je trouve que dans les 2 heures de débat, chacun a eu ses séquences.
2h15.
2h15, bon, ça on racontera les coulisses dans un autre épisode. Mais chacun a eu ses séquences. Bardella, peut-être au début, quand Panot et Véran ferraillaient, lui, à chaque fois, marquait le coup, ouais. Calmait le débat, calmait les deux, et arrivait à poser un petit peu ses arguments. Panot aussi s'est pas mal défendu, je trouve, au milieu du débat, et Véran a repris la main vers la fin. Je ne saurais pas qui a gagné le débat, mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'était assez drôle, en fait, ce débat à trois, parce que souvent, on voyait Bardella, Panot contre Véran, donc c'était un 2-1. On les voyait s'attaquer sur les différents plans, en plus de la télé. Et puis, parfois, c'était vraiment un bon match de catch entre les trois qui ne se mettaient pas vraiment d'accord et qui se tiraient un petit peu la bourre sur un peu tout. Donc, match nul, moi, je dirais.
Léopold, je prends
pas trop de risques.
Bah, impression générale, effectivement, de comme Anthony, je ne trouve pas qu'il y ait de gagnants particuliers à l'issue de ce débat. On se dit pas, tiens, cette personne-là est sortie du lot en particulier. Personne ne s'est effondré, mais chacun venait avec son objectif, qui était de cibler l'un puis l'autre avec des arguments différents. Elle venait aussi en se défendant, évidemment. On sort d'une journée, on a beaucoup parlé de la boulette, entre guillemets, de Franck Riester à propos de la pénibilité, du travail pour les femmes.
Plus pénalisé par la réforme des retraites, c'est ce qu'il a dit sur la chaîne parlementaire il y a environ 24 heures.
Évidemment, Olivier Véran savait qu'il était au tournant sur ce point, voilà. Donc il a été pas mal titillé, mais en même temps, il a aussi, lui, par exemple, eu ses moments avec Mathilde Panot. Il lui a demandé plusieurs fois est-ce qu'il considérait que l'Assemblée nationale était une ZAD, qui fait écho aux propos de Marine Tondelier, la leader des écologistes. On remarquera que sur ce point-là, Mathilde Panot, par exemple, n'a pas répondu clairement et qu'on a toujours pas, à l'heure où on se parle, la réponse précise sur est-ce que oui ou non elle considère que c'est une ZAD. Alors elle répond entre les lignes, mais pareil sur les coupures d'élus, elle ne répond pas. Chacun a eu un peu son moment. Et entre tout ça, Jordan Bardella, lui aussi, qui n'est pas député à l'Assemblée nationale, devait se faire entendre pour trouver également un peu un positionnement. Il l'a trouvé plus ou moins à certains moments. En tout cas, tu as raison, Philippe, je suis d'accord, il n'y a pas eu d'effondrement particulier. On sort en se disant que ce débat, il est toujours aussi tranché dans la société. Ça s'est vu d'ailleurs à travers les personnes qui étaient là.
Chacun a coché les cases qu'il avait préparées pour le débat, avec les éléments de langage, les termes qu'il fallait mettre, les petites punchlines, la France des BTS de Jordan Bardella. Moi, j'ai regardé une partie du débat avec l'équipe de Bardella et ils attendaient le moment où Bardella allait dire France BTS, par exemple.
Ouais. Moi, je parle de la finance. Explique ce que ça veut dire France BTS.
La France des BTS, c'est la France...
C'est la France de ceux qui ont fait des études supérieures courtes, qui sont rentrés sur le marché du travail environ vers 20 ans. Donc, ils ne bénéficient pas des dispositifs carrière longue, qui, parce que souvent sont dans le tertiaire, dans les services, ne font pas des métiers qui leur permettraient de profiter aussi du... ou en tout cas de bénéficier des comptes de pénibilité, et qui donc doivent travailler plus longtemps, passage de l'âge légal à 64 ans, sans bénéficier des dispositifs carrière longue ou pénibilité. C'est ça, en gros, que veut dire, dans une formule un peu ramassée, journal Bardella, la France BTS.
Voilà. Et quand on discute, juste un petit peu avant le débat, moi j'avais fait ça avec l'équipe de Panos cette fois, eux, ils avaient bien en tête de marteler que c'est une réforme antifemme, injuste. Et donc, voilà. Tous les mots ont été balancés dès le début de l'émission, on crampe bien le sujet.
Les fameux éléments de langage.
Voilà, les fameux éléments de langage.
Alors, il faut préciser quelque chose rapidement, puisqu'on l'a précisé en début d'émission, et je pense que c'était important de le préciser. Lorsque nous avons commencé à parler avec Marc-Olivier Fogiel, c'est le jour où je revenais de vacances, je m'en souviens. Le jour où je reviens de vacances, le matin, à 8h du matin, il m'appelle. Donc c'était le 26 décembre, et il m'a dit il faut qu'on organise un débat sur les retraites. On réfléchit rapidement à qui on veut autour de la table, enfin, dans le studio, et on s'est dit il faut qu'il y ait les représentants des quatre plus grands partis représentés au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale. Donc un ministre pour représenter la majorité relative, quelqu'un du Rassemblement national. Donc on avait pensé à Jordan Bardella, on avait pensé à Olivier Véran pour représenter le gouvernement, Jordan Bardella pour le Rassemblement national, même s'il n'est pas lui-même député. Évidemment, la France insoumise, on avait pensé à Mathilde Panot, qui est patronne du groupe, et les Républicains. Et comme Éric Ciotti venait d'être élu président des Républicains, on s'est dit on va inviter Éric Ciotti. Et donc voilà, c'est les quatre noms qu'on avait en tête, Véran, Panot, Bardella, Ciotti. Moi, j'ai échangé avec ces quatre-là. Ça a été compliqué de les convaincre pour certains, mais en gros.
Tu peux nous raconter d'ailleurs, Philippe, comment est-ce qu'on fixe une date, par exemple, quand
on a
quatre.
Avant même de fixer une date, il faut accepter le principe. Donc on a finalement réussi à accepter les quatre ont réussi à accepter le principe d'un débat avec les trois autres. Et à ce moment-là, il a fallu trouver une date. Alors on a d'abord pensé à une date, puis ça a été changé parce que pour différentes raisons. Puis au bout du compte. Puisqu'en gros, Véran ne souhaitait pas que ça ait lieu la semaine précédente de la première, donc la dernière semaine, la semaine de la première manif, il voulait que ça ait lieu après le Conseil des ministres, donc 23. Donc on a cherché une date pour cette semaine-là. Donc Jordan Bardella nous a très vite dit que pour des raisons d'agenda, il ne pouvait pas être disponible le 25, donc le mercredi. Il nous restait donc le mardi ou le jeudi, 24 ou 26. Et en gros, on a donné le choix à Éric Ciotti. Mathilde Panot nous a dit « Moi, je préférerais plutôt pas le mardi ». Mais Éric Ciotti nous a dit le mardi. Donc on a dit le mardi. Donc ça, c'était...
C'est lui qui a tranché, en fait.
Ah oui, ça a pris plusieurs jours, en fait, parce que ça a pris plusieurs jours pour qu'au fond, on trouve cette date, donc fixée au mardi 24. Quelques heures après que Éric Ciotti ait dit d'accord pour le mardi 24, il a commencé à me dire « Ah oui, mais j'ai mes vœux ce soir-là. » Bon. Le lendemain matin, il se trouve qu'il était à BFM, le lendemain matin, il nous redit « Ah oui, mais j'ai mes vœux ce soir-là. » On lui dit « Mais vous serez quand même là pour le débat, parce qu'on n'est pas loin. Le siège des Républicains, c'est à, je sais pas, 2 km d'ici. À 19h, vous serez ici à 20h45, pas de problème. » Il dit « Oui, donc on lui dit à la semaine prochaine, pas de problème. » Et quelques heures plus tard, il dit « Bon, finalement, c'est pas possible, je peux pas venir. »
Ça sent un peu la fausse.
Et donc on dit « Voilà, on essaie de voir, on essaie d'insister, ça ne marche pas. » On le regrette. On lui dit « Mais vous comprenez quand même que, voilà, vous étiez engagé, etc. » Lui nous propose un représentant alternatif du parti. Mais le principe, c'est quand même c'est nous qui invitons les représentants qu'on souhaite inviter sur un plateau. C'est pas à eux de désigner quelqu'un qu'ils enverraient comme ça sur une chaîne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a sollicité Bruno Retailleau, qui nous a expliqué pourquoi est-ce que lui pensait que c'était pas une bonne idée pour LR de participer à ce débat.
Pourquoi ?
Pour ne pas être... Enfin, je paraphrase, mais en gros, c'est ce qu'il m'a expliqué. Et ça a au moins le mérite de la cohérence. C'est qu'il disait, écoutez, on va voter cette réforme. Ils ont effectivement repris un certain nombre de choses que nous, au Sénat, nous, républicains du Sénat, nous défendons depuis plusieurs années. Mais précisément parce que nous allons voter cette réforme et qu'ils reprennent nos positions, nous n'avons pas envie... Je pense que ça n'est pas une bonne idée de nous afficher comme ça
stratégiquement,
dans une
émission, en fait,
stratégiquement, dans une émission et le gouvernement, pendant 2 heures, en face, le Rassemblement national et la France insoumise. Il m'a même cité l'exemple de cette une de magazine qui est assez ancienne, qui date des années... je crois que c'est 2005. Je crois que c'était une une de Paris Match, où Nicolas Sarkozy et François Hollande, l'un patron de l'UMP et l'autre patron du PS, avaient posé ensemble, souriant, sur une une de magazine. Il avait dit, et Bruno Retailleau m'a dit, je pense que c'est une mauvaise idée, parce que ça fait beaucoup de mal aux militants sur le terrain, et ça risque d'alimenter une forme de doute qu'il y a, ou d'hésitation. En tout cas, ça n'est pas une bonne idée politique. Bon, ça a le mérite de la cohérence. on a sollicité deux autres responsables, que je ne vais pas citer, mais deux autres responsables des Républicains. Et nous avons constaté qu'il n'est pas possible d'avoir une figure nationale des Républicains, donc ni Éric Ciotti, ni Bruno Retailleau, ni deux autres figures importantes que nous avions sollicitées. Et donc nous avons constaté qu'il n'était pas possible de les avoir sur notre plateau, ce qu'on regrettait. On a envisagé de l'annuler. Et en même temps, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que l'absence des Républicains empêcherait le gouvernement, le Rassemblement national et la France insoumise de développer leur point de vue sur un débat qui est au cœur des préoccupations des Français en ce moment? Donc on s'est dit, voyons si les trois autres accepteraient de débattre à trois, ce qu'ils ont accepté de faire.
— Et t'avais des doutes qu'ils acceptent pas ?—
Oui. Enfin ils auraient pu dire « Non, vous nous aviez parlé d'un débat à quatre. Là, c'est un débat à trois. C'est pas les mêmes conditions ». Il se trouve qu'ils ont tous les trois considéré que l'absence des Républicains ne justifiait pas d'annuler la présence à ce débat. Donc voilà, c'est un choix qui a été fait. Après, je sais qu'il y a des Républicains qui ont regretté qui nous ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux en disant « Mais comment, vous n'avez pas pensé à inviter les Républicains ?» Si, on a beaucoup pensé. On a passé beaucoup de temps à essayer de convaincre les Républicains de venir, oui, et ensuite de trouver une date, ce qu'ils avaient trouvé finalement. Bref, je referme cette parenthèse-là. Mais on peut raconter... Non, il y a quand même quelque chose qui s'est passé en coulisses juste avant le générique, mais qui a débordé dans l'émission, puisque Maxime Soutek l'a évoqué en tout début d'émission. On était ensemble sur le plateau, Anthony. Raconte-moi ce qui s'est passé. On était avec... donc on a fait entrer sur le plateau... Mathilde Panot était déjà rentrée, Olivier Véran était déjà rentré, et on accompagnait Jordan Bardella pour rentrer sur le plateau. Qu'est-ce qui s'est passé? On est à 2 minutes du début de l'émission.
On est à peine 1:30 de la prise d'antenne. Olivier Véran est déjà installé, les deux présentateurs, Aurélie Cass et Maxime Switek aussi. Nous, on est juste derrière les caméras de BFM TV qui vont filmer ce débat, et... Jordan Bardella donc contourne la table des présentateurs, se dirige vers la table de Mathilde Panot, lui tend la main droite. Mathilde Panot ne le regarde pas encore. Elle tend en retour la main droite, sauf qu'elle lève les yeux à ce moment-là et elle s'arrête net.
Elle reconnaît Jordan Bardella
Elle retire sa main. Bardella, moi je le vois de loin, il fait une sorte de mou. Il dit bon bah ok. Il continue son chemin vers sa table à lui. Ouais. Il voit Véran, il va saluer Véran, il va lui serrer la main. Et le débat commence comme ça. Et tu fais bien de le mentionner parce que Maxime Switek, du coup, le mentionne dès le début de l'émission.
Après leur introduction respective.
Après l'introduction. Et il demande à Mathilde Panot pourquoi vous n'avez pas serré la main de Jordan Bardella. Et Mathilde Panot, on la sent bien quand même un petit peu interloquée, gênée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui pose la question. Peut-être elle ne s'attendait pas à ce qu'on l'ait vue, cette scène. Oui. Et elle dit parce que le Rassemblement National n'est pas un parti comme les autres. Point. Jordan Bardella riposte et dit « Est-ce que vous savez serrer la main d'Olivier Véran ?» Elle dit non non plus.
Alors c'est vrai, ça c'était en coulisses avant. Il se trouve que Jordan Bardella était arrivé, il était déjà dans sa loge. Mathilde Panot était au maquillage, Olivier Véran est arrivé. Donc ils se sont croisés dans la salle de maquillage. Je ne les ai pas vus se serrer la main, mais ils s'étaient croisés déjà dans la salle de maquillage. La différence, c'est que j'en parlais avec Jordan Bardella avant l'émission. Il n'avait jamais... Dans son souvenir, il n'avait jamais croisé Mathilde Panot de sa vie. Oui. Il se trouve que Mathilde Panot était élu à l'Assemblée nationale quand Jordan Bardella était élu au Parlement européen, donc ils ne s'étaient jamais croisés. Ils ont peu l'occasion de militer ensemble entre la France insoumise et le RN.
Et de ferrailler.
Et donc c'était la première fois qu'ils se voyaient, selon les souvenirs de Jordan Bardella. Et donc Mathilde Panot a pris soin de ne pas échanger, de ne pas croiser Jordan Bardella avant l'émission ou après l'émission.
Ça rappelle ce qu'avait fait Louis Boyard à l'ouverture de la 16e législature, Louis Boyard qui accompagnait Mathilde Panot pour ce débat et qui avait refusé de serrer la main à des députés RN, dont Philippe Ballard, à l'Assemblée. Voilà.
Y a quelque chose à ajouter? Toi, Léopold, qu'est-ce que t'en penses?
Ah bah non, mais on peut rajouter qu'à la fin du débat, il s'est passé plus ou moins la même chose de manière un peu différente. C'est-à-dire que à la sortie du plateau, les trois politiques donc, qui étaient là... sont allés dans leur loge, il y a un petit moment de débrief avec leurs équipes, et puis ensuite ils repartent. Donc le premier à partir, c'était Olivier Véran qui avait l'air un peu pressé.
Ouais.
Je pense voulait rentrer rapidement chez lui. Et puis derrière lui, on a un petit peu discuté avec Jordan Bardella, comme on le fait à chaque fois avec tout le monde, pour un peu recueillir les impressions, est-ce que c'était long pour eux, est-ce qu'on abordait tous les sujets, etc. Et puis on voyait que du côté de Mathilde Panot, il y avait une porte fermée de la loge, éventuellement quelques personnes qui sortaient pour voir. Notamment
si était toujours là.
L'équipe du Rassemblement National était partie ou non. Et alors dès que Jordan Bardella s'est approché de la porte pour partir, il a lancé une petite phrase en disant bon c'est bon, vous pouvez leur dire que je m'en vais, que je suis parti. Et à peine cette phrase lancée et lui au loin parti du bâtiment, on a vu la porte de la loge de Mathilde Panot se rouvrir Et l'attaché de presse glissait, hein, c'est bon, ils sont partis, vous pouvez venir. Et là, paf, ils sont tous sortis. Je pense qu'elle avait pas franchement envie de le revoir.
Elle voulait les fumer
officiellement, oui. Mais bizarrement, pas quand Jordan Bardella était encore là.
Quelque chose d'autre à ajouter, Anthony ?
Non, mais c'était, en fait, ça fait du bien de revoir ce genre de débat parce que ça rappelle aussi la campagne présidentielle, la campagne législative. Alors c'est vrai que ça nous intéresse.
C'est le débat le plus important depuis celui qu'on avait organisé pour l'entre-deux-tours des législatives. Déjà avec Jordan Bardella, il y avait aussi Clémentine Autain et Gabriel Attal ce soir-là.
Et puis c'est un sujet qui intéresse, qui interpelle, qui interroge,
qui concerne tout le monde.
Qui concerne tout le monde. On l'a vu avec les mobilisations dans la rue, la mobilisation des syndicats. Enfin,
si, on peut rajouter quelque chose.
Oui.
C'est que on sait que Jean-Luc Mélenchon regardait.
Ah bah
oui, puisque il tweetait régulièrement des messages de félicitations à Mathilde Panot.
J'ai jamais eu autant de notifications de Jean-Luc Mélenchon que ce soir-là.
Et on sait aussi, puisque Jordan Bardella nous l'a dit, que Marine Le Pen a regardé une bonne partie de l'émission.
Jusqu'à 22h32.
Voilà, puisqu'elle lui a envoyé des messages. Lui était sur le plateau avec son téléphone en silencieux, mais Marine Le Pen lui a envoyé des messages pendant l'émission. Donc elle regardait aussi BFM TV.
Mais c'est intéressant sur les coulisses du débat, parce que quand on va sur le plateau, on ne voit pas forcément, en tout cas du point de vue des téléspectateurs, on ne voit pas forcément ce qu'il y a sur leur table. Mais sur leur table, il y a téléphone portable, une vingtaine de fiches, un peu foutu n'importe comment.
Ça en fait.
Ouais, et on voyait par exemple souvent dans les plans sur Olivier Véran qui regardait très souvent son téléphone portable, pareil pour Bardella, Panot, je sais pas si elle avait son téléphone portable, mais ils étaient pas tout seuls sur le plateau à ce moment-là, quoi.
Non, mais c'était intéressant, donc.
On espère qu'il y en aura d'autres parce que ça fait vivre aussi les débats en des périodes intéressantes comme ça.
Tu peux en teaser un ou pas
Je peux en teaser un.
Est-ce qu'il y en aura d'autres déjà peut-être
Bien, nous espérons probablement, nous espérons qu'il y en ait d'autres. En tout cas, il y avait d'autres ministres qui souhaitaient, enfin, ou qui auraient souhaité participer à ce débat. On ne manquait pas de candidats de ce côté-là. Et d'ailleurs, si un des ministres veut participer à un forum BFM, l'émission qu'on a enregistrée, qu'on a d'ailleurs montée l'autre jour avec Olivier Vidussoff face à un certain nombre de Français pour la grève, contre la grève, il y avait des gens de la CGT, mais aussi des chefs d'entreprise, etc. Il y avait, c'était assez intéressant. Si on arrive à monter une autre émission de ce type prochainement, ça sera très bien. Bon, merci à tous les deux, puisqu'il est minuit et presque 7 minutes, et que je ne veux pas rajouter à votre liste de pénibilité une raison d'obtenir des trimestres supplémentaires dans quelques dizaines d'années quand vous prenez votre retraite. Dans quoi dans presque 40 ans pour vous
Moi, j'ai commencé à 22 ans, donc 22 plus 43, je suis nul en maths.
22 plus 43.
Là, 65 ans. À minuit 7, 65 ans. Je peux rien calculer, moi.
Léopold, toi.
J'ai pas calculé encore. Faudrait que je
t'as commencé à quel âge À cotiser.
À 20 ans. Bah, écoute, ouais, 20 ans à peu près, je pense.
20 ans.
20 ou 21.
Ouais.
Quelque chose comme ça.
Bon, bah.
Donc, faut ajouter 43.
64.
64. Ah, bah, pile la réforme. Pile dedans. Incroyable.
D'accord.
Chanceux.
Mais moi, pareil. Mais sauf que je suis en train de ma retraite bien avant vous. Et donc, vous cotiserez pour ma retraite.
Ah, merci. Avec plaisir.
Salut.
Salut.
Merci d'avoir suivi cet épisode. On en refera un autre dans quelques heures, puisqu'on va parler, on parlera avec Alexis Cuvillier des Républicains, des doutes ou des interrogations au sein des députés républicains pour savoir s'il faut ou pas voter cette réforme des retraites. À plus tard.